Le yiddish, aujourd'hui, chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité, avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Annette. Alors Shavuot arrive à grands pas.
Shavuot arrive.
Ainsi que l'ascension.
Voilà, nous faisons notre émission le mardi et ce jeudi c'est l'ascension, même si notre émission nous sera diffusée. Ben, je pense qu'il n'y a pas de diffusion le jeudi de l'ascension, je crois. Donc parce que ça serait tombé vraiment tout juste. Mais bon, moi le dimanche après l'ascension. Voilà, donc par hasard, je vais lire un texte sur l'ascension en cherchant un texte sur Shavuot, mais je suis tombée sur un passage du livre que nous avons abondamment cité parce qu'il est vraiment extraordinaire, ce livre de Israël Yoshua Zinger, donc le frère de Bachevis, et qui s'appelle « D'un monde qui n'est plus ». Alors, je me dis finalement, plus je lis ce livre, plus je me dis que c'est une espèce de... d'anti-livre sur le shtetl, c'est-à-dire que déjà à l'époque de Yoshua et de Bachevis Zinger, il y avait une espèce d'admiration, enfin je ne sais pas comment on peut dire, d'idéalisation du shtetl, de cette vie très religieuse, des gens qui y vivaient. Évidemment, cette tendance a été encore énormément amplifiée après la Shoah. En fait, Israël Yoshua Zinger écrit vraiment entre les deux. Il écrit, pendant qu'il écrit, la Shoah est en train de se dérouler, mais ils ne savent pas tout. Et donc, lui a vraiment essayé de montrer le shtetl sur ses côtés, finalement, plus ou moins négatifs, qui sont tout aussi réels, évidemment, que les côtés positifs. C'est là qu'on voit quand même la force de la littérature, c'est-à-dire que les mêmes événements, la même famille, aussi cette famille Zinger, peut être présentée sous des jours très différents. Voilà, donc là, en cherchant un peu un texte sur Shavuot, je tombe sur un texte sur l'ascension. Voilà, et donc je me suis dit que je vais le lire. Bon, évidemment, c'est une traduction du yiddish. Donc, je rappelle toujours ce livre, « D'un monde qui n'est plus », traduit du yiddish par Henri Lévy, édition de Noël. Voilà, donc je vais vous lire ce passage tout à fait savoureux de Israël Yoshua Zinger. Plus mon père voulait me tenir à l'écart de la vie et plonger dans les saints livres, plus violemment j'aspirais à la vie dont je m'imprégnais avec une passion extraordinaire. Mieux encore, la vie elle-même faisait irruption dans le cabinet de mon père où je devais étudier la Torah. Cela commençait avec les femmes qui venaient poser des questions sur leurs problèmes de femmes. Mon père généralement m'envoyait dans une autre pièce. Mais moi, je savais mettre une oreille curieuse contre la porte pour entendre les échanges mystérieux qui se faisaient dans le cabinet rabbinique. Voilà, et donc là, il cite des choses qui concernent évidemment la sexualité. Et un jour, le lendemain d'un mariage dans la bourgade, il y eut un grand tumulte chez nous parmi les femmes de la famille du marié, celles-ci ayant de grands doutes sur la chasteté de la jeune mariée. Tout le temps qui avait passé des fiançailles jusqu'après le mariage, les deux parties s'étaient déchirées. Oui, alors vous savez quand le mot en yiddish c'est tzad, hein, le chosn tzad et kales tzad, le côté de la mariée. En fait, le côté du marié, voilà, il emploie ce mot, le côté du marié ne trouvait pas assez noble le côté de la mariée. À vrai dire, même la famille du marié n'était pas de haute ascendance, mais celle de la mariée avait une tâche. La mariée avait un frère apostat et charcutier par-dessus le marché. À chaque foire dans la bourgade, il arrivait de son village avec son épouse Goy, pour l'amour de qui il s'était converti, et il se plantait là avec sa marchandise impure, côte de porc et saucisse.
Oh là.
Voilà, vous voyez bien l'humour aussi de Israël Yoshua qui insiste bien sur tout ça, hein. Comme si ce n'était pas suffisant, il a installé son commerce innommable près de chez son père. On aurait dit qu'il voulait marquer sa colère de ce que sa famille lui maudit et eut observé pour lui de son vivant les 7 jours de deuil. Oui, ça c'est traditionnel, lorsque quelqu'un se convertit évidemment au christianisme à l'époque, on fait comme s'il était mort et donc il y a cette Shiva. Les jours de foire, joyeux pour tout le monde, étaient des jours de tristesse et de honte pour la famille de l'apostat charcutier. C'était pour elle un vrai jour de deuil et aussi pour tous les autres juifs de la bourgade quand venait le jeudi de l'Ascension et que cet apostat participait à la procession Goy en tête portant le crucifix. Vous voyez donc, bon, il faisait vraiment beaucoup. Hein.
Oui.
Le jeudi de l'Ascension, les juifs en général étaient inquiets. Les milliers de goyim qui avaient fait le voyage, hommes et femmes, les femmes en robe blanche, les jeunes filles avec des couronnes de seigle dans leurs cheveux de lin, les curés en surplis, les croix et les images saintes colorées, Jésus et tout le saint frusquin des idolâtres, tout cela excitait la foule, faisait bouillir les sangs et les juifs n'étaient jamais sûrs que tout cela, à Dieu ne plaise, ne dégénérerait. Les goyim, qui étaient vraisemblablement les plus nombreux et les plus forts, se sentaient pourtant toujours intérieurement inquiets avec leur Jésus en présence des juifs peu nombreux et désarmés. Ils avaient toujours l'impression que les juifs riaient d'eux et les méprisaient. Ils les accusaient donc de blasphème, de moquerie à l'égard de ce qu'ils tenaient pour saint. C'est pourquoi les Juifs ne se contentaient pas de barricader leurs boutiques, mais fermaient leurs volets en plein jour dans l'été lumineux, mettant des chaînes à leurs portes et se cachant dans les coins. Mon père m'enjoignait de façon pressante de ne pas regarder par les fentes des volets ces cérémonies païennes, car ce faisant, on se souille les yeux et il faut ensuite jeûner 40 jours. Bien sûr, mon mauvais penchant l'emportait sur mon père, et obtenez de moi au contraire que je regarde les choses interdites. Je voulais voir les bannières et les images aux couleurs vives, les hommes et les femmes costumés de manteaux bleus et rouges, marchant pieds nus avec des cercles d'or autour de la tête. J'étais curieux aussi de voir les femmes goyes vêtues de blanc jetant des fleurs sous les pas du curé, d'entendre leurs psalmodées criardes. Comiques étaient les paysans portant des surplis courts, leurs lourdes et informes bottines paraissaient étrangères à leurs saintes chemises. Des femmes bardées de perles noires et de crucifix, des bougies de cire dans les mains, chantaient hystériquement. Les curés continuellement agitaient leurs clochettes, aspergeaient d'eau bénite et faisaient le tour du Jésus principal, assis sur des petits coussins et portés par 4 femmes vêtues de blanc. Une forêt de croix et de bannières se penchait et tremblait au vent. À la place d'honneur allait l'apostat aux blondes moustaches, portant la croix la plus haute à laquelle était cloué un Jésus tout nu. Si on lui faisait cet honneur, c'est parce qu'il était passé du camp juif à celui des goyim. Mmh. J'étais saisie de frayeur à voir ce renégat aux moustaches jaunes. Les femmes maudissaient sa mère qui aurait dû avorter quand il était encore dans son sein. Voilà, donc on va s'arrêter là, même s'il y a d'autres descriptions. Alors, description très précise, justement, de cette procession.
Oui, qui est formidable. On comprend qu'on se convertisse pour participer à ça.
Voilà.
C'est drôlement plus concret, festif et tout, que tout ce que nous, on peut inventer.
Absolument, voilà. Donc, en tout cas, il a bien observé et il se rappelle de tout.
Chaque
et
détail.
Et le raconte.
Mais c'est pas fini.
Non, ça continue.
Alors justement, il s'est agi d'un mariage. Enfin, il se fait ce mariage ou pas?
Oui, après il y a un mariage. Il y a le mariage quand même. Oui, je vais le dire
bien
après.
Bien qu'il soit converti et tout les...
Non, alors le problème, c'est que donc, le frère
du marié, oui.
Mais le jeune marié veut quand même épouser cette fille.
Oui.
Qui, elle, n'y est pour rien. Hein. C'est le problème dans beaucoup de familles. C'est aussi un des problèmes chez les gens qui quittent la religion. Hein. Je veux dire, lorsque dans une famille très religieuse, un des membres s'éloigne, eh bien, ça retentit sur tous ses frères et sœurs, et en particulier pour leur mariage, alors qu'ils n'y sont pour rien.
Ouais.
Voilà, là, c'est pareil. C'est-à-dire, bon, là, il va très loin, hein, ce garçon-là, ce jeune.
Oui.
Non seulement il se convertit, il se marie avec une non-juive, mais c'est pour ça qu'il s'est converti, évidemment. Et, mais il mène des processions, il vend de la charcuterie.
Lui,
il va très loin.
Ouais,
mais c'est vrai que le problème retentit sur sa sœur.
Alors justement, j'ai choisi des plages sur un CD, je vous en parlerai, qui parle de mariage. Alors c'est le CD Orient Express Moving Schnorrers, que j'ai choisi parce que je vais faire une émission la semaine prochaine sur Yom. Je ne sais pas si vous savez que Yom a les honneurs de France Musique ces jours-ci, ces semaines-ci, parce qu'il y a une série d'émissions qui lui sera consacrée. Il est devenu un des clarinettistes, klezmer connus dans le monde entier. Et ses débuts, il les a fait avec cet ensemble, Klezmer, Orient Express, Moving Schnorrers, à l'invitation de Pierre Weckstein, qui dirigeait ce groupe et qui l'a invité pour être un des membres et le clarinettiste à ses débuts. Et voilà, il s'appelle Guillaume Humery, et de Guillaume, il a gardé le Yom qu'il y a dans Guillaume. Donc, en hébreu, ça veut dire jour. Je sais pas très bien, c'est pas plus fort que ça symboliquement, le fait de s'appeler Yom, sauf que ça sonne comme un mot hébraïque, ce que c'est, mais ça dit pas plus que ça. En tout cas, son nom, c'est devenu Yom, et il a beaucoup enregistré depuis, en solo, ou avec... Bon, j'en parlerai plus, il s'intéresse aussi à tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est spirituel, et il a toute une quête très très intéressante. Mais là, je voulais faire entendre deux plages, donc, de ce CD, de Orient Express Moving Schnorrers, pas très facile à dire comme nom de groupe, ils ont changé d'ailleurs plus tard pour Klezmer Nova. Donc cette plage s'appelle Hasene et autres Pax, parce qu'il y a toujours plein de blagues dans leur titre et dans leur texte. Alors c'est un pot-pourri de trois airs, et voici comment ils l'introduisent. Bénédiction, lecture et deux coupes de vin marquent avec la remise... C'est tellement petit que j'ai du mal à lire. Marquent avec la remise de l'année... de l'anneau nuptial, la cérémonie du mariage, inséparable du repas qui la suit, clos par ses grâces et d'autres bénédictions, toujours accompagné de libations. Mazel Tov, donc parce que c'est un montage et entre autres il y a Mazel Tov, a été chanté dans les années 30 par Aaron Lebedev, tandis que Abby Elstein jouait son Rosenkahl Mazel Tov. Voilà, et donc on écoute cette plage. Thank you. Voilà, la Chassenetanz. Alors, c'est des gens qui aiment bien jouer, ne pas restituer la musique telle qu'elle a été écrite, passer du majeur en mineur, de changer de tonalité, changer de tempo. Voilà, c'est leur signature.
Voilà, et donc il va être question effectivement d'un mariage. Donc, c'est le mariage de la sœur de ce converti. Et voilà, donc je continue la lecture du texte. Quand la procession était finie, les goyims, hommes et femmes, perdaient toute sainteté et s'en allaient dans les deux tavernes de la bourgade pour boire, danser et se battre, cependant que les juifs rouvraient leurs volets et leurs boutiques et se remettaient à leurs caisses. On comprend bien que cette famille n'ait pas eu bonne renommée, donc la famille du converti, hein, bien qu'elle ne fût pas responsable du malheur qui l'avait frappé. Personne ne voulait se lier avec elle par le mariage. Mais il se trouva que le fils d'un boucher, un ancien soldat, tomba amoureux de la sœur du converti et qu'on en vint à une alliance contre la volonté des parents du jeune homme. Une heure avant la cérémonie nuptiale, le père de celui-ci voulut encore empêcher le mariage. Comme le fiancé et ses garçons d'honneur étaient assis dans la maison de la fiancée à se réjouir, le père du fiancé se rappela soudain que le père de la fiancée n'avait pas quitter la somme de 100 gulden sur les 1000 de la dot. Il saisit son fils par une manche de son caftan tout neuf et voulut le traîner chez lui. Le fiancé, qui était assis avec dignité parmi ses garçons d'honneur, n'avait pas du tout envie de quitter la maison de ses beaux-parents. Mais son père lui a arraché la manche. « Viens, mon fils, je ne veux pas de ce mariage, je n'en veux pas. » Donc, au moment du mariage, hein. La mère du fiancé, qui était bien malheureuse parce que son fils s'était converti, commença à défaillir. La fiancée pleurait sur son siège de fiancé où les jeunes filles tressaient ses cheveux en nattes et les couronnaient de fleurs des champs. Mon père s'interposa et ne permit pas que la fête fût troublée. Les parents du fiancé conduisirent leur fils au dé nuptial, plein de colère qu'il eût choisi une fiancée dans la famille d'un apostat. Le lendemain, les femmes du côté du marié commencèrent à chercher querelle à la fiancée, contestant sa virginité. Notre maison se remplit de femmes qui chuchotaient mystérieusement, examinaient des draps de lit et murmuraient. Mon père trouva qu'il cherchait à la fiancée une mauvaise querelle et les chassa de chez nous. « Des femmes juives n'ont pas le droit de calomnier une innocente, » dit-il en se mettant en colère. Voilà, donc ce Pinchas Zinger, qui était un homme doux et gentil, avait quand même arrivé à prendre des positions. Ouais. Il avait de l'autorité dans certains cas et surtout, il défendait là, les femmes et les pauvres. Voilà, donc, bien que tout le temps que dura ce tumulte féminin, j'eusse été repoussé dans une autre pièce, j'avais tout vu et tout entendu. Donc, effectivement, il a parfaitement compris de quoi il s'agit. Le garçon a mille lieux comme l'ange de la mort, disaient de moi les femmes. Il pousse là, on ne le sème pas. Elles avaient raison. Une curiosité inouïe à l'endroit des gens et de leurs actes brûlait en moi depuis ma plus tendre enfance. Ce que je voyais chez un seul individu, je ne l'aurais pas vu dans 1000 livres sacrés. Voilà, donc très très beau passage hein, sur les fêtes non juives, sur un mariage qui se fait pas très bien et très savoureux.
Voilà. La description de ces noces est vraiment extraordinaire. Ça me fait penser d'ailleurs aux noces de Stravinsky où ça décrit tout ça, les tresses et les couronnes de fleurs et toute cette procession. Pour c'est l'ascension.
C'est du côté juif, alors c'est intéressant qu'on mette aussi des fleurs chez une fiancée juive. Hein, ça c'est là, il a décrit ça.
Oui.
Mais bon, la fiancée doit pleurer au moment de la noce. Hein, mais ça, normalement, c'est le batrane qui l'a fait pleurer. Alors que là, cette pauvre fille pleure parce que...
Elle a été calomniée, oui. c'est affreux. Oui. Ouais. Bon, ben alors encore une plage de ce fameux CD Orient Express Moving Schnorrers, Rassene et autres Pax, deuxième partie, où il y a de la même manière, c'est un pot pourri de différents airs autour du mariage.
Voilà, et on vous dit shalom aleichem.
Et merci Thomas, à la semaine prochaine. Thank you.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.